Volume 6, les œuvres de George Fox, livre Doctrinosi, suite à tous les responsables gouvernementaux qui professent le christianisme, au sujet de la liberté de l'évangile chrétien, contre la persécution, et contre le fait qu'un chrétien force, persécute, emprisonne et dépouille les biens d'un autre, parce qu'ils ne veulent pas être de sa foi, de son culte ou de sa religion, par G. F. Christ a dit, « Laissez croître ensemble l'ivraie et le blé jusqu'à la moisson, qui est la fin du monde, et alors les anges de Christ sépareront l'ivraie du blé. » Et les anges ne sont-ils pas des esprits, et non des hommes, car Christ commande aux hommes chrétiens de s'aimer les uns les autres, et d'aimer leurs ennemis, donc de ne pas les persécuter. Et ces ennemis peuvent être changés, par la repentance et la conversion, de l'ivraie en blé. Mais si des hommes les emprisonnent, les dépouillent et les détruisent, ils ne leur laissent pas le temps de se repentir. Ainsi il est clair que brûler l'ivraie est l'œuvre des anges, et non celle des hommes. Les hommes chrétiens doivent s'aimer les uns les autres et aimer leurs ennemis. Et Christ a repris ses disciples, qui auraient voulu que le feu descende du ciel pour détruire ceux qui ne voulaient pas le recevoir, et il leur a dit, « Je ne suis pas venu détruire la vie des hommes, mais les sauver. » Et Christ est la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde, et il a dit, « Croyez en la lumière, afin que vous deveniez enfants de la lumière. » Et Dieu répand son esprit sur toute chair, à savoir, sur ses fils et ses filles, ses serviteurs, et l'Esprit de Dieu est donné à chacun pour le bien de tous, afin que, dans l'Esprit, ils servent et adorent le Dieu vivant qui les a faits. Et nul ne doit attrister, ni contrarier, ni étouffer les mouvements de l'Esprit de Dieu, mais marcher en lui et être conduit par lui, afin d'être fils et fille de Dieu. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus, et cette grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes, elle leur apprendra à renoncer à l'impiété et à vivre avec justice et sobriété. Ainsi tous les hommes qui connaissent leur salut et viennent en faveur auprès de Dieu, c'est par sa grâce. Et cette grâce et cette vérité sont dans le cœur des hommes et des femmes, pour les établir sur Christ, qui est plein de grâce et de vérité. Et Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Et ainsi il ne voudrait pas que les hommes soient détruits, et n'a donné aucun commandement tel que les hommes se détruisent les uns les autres à propos de la religion. Et Christ a envoyé ses apôtres et ses disciples prêcher l'évangile de vie et de salut à toutes les nations et à toute créature sous le ciel. Il n'a pas dit qu'ils devaient emprisonner, dépouiller les biens et détruire ceux qui ne recevraient pas leur évangile ni n'y croiraient, mais qu'ils devaient secouer la poussière de leurs pieds, ce qui devait être un témoignage suffisant contre eux. Et Christ, par la grâce de Dieu, a goûté la mort pour tous les hommes, et Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes, afin que cela soit attesté en temps voulu. Ainsi n'est-ce pas que Christ a en cela acquis tous et racheté toute l'humanité à prix, à savoir par son sang, en goûtant la mort pour eux tous et en se donnant lui-même en rançon pour tous, et par conséquent, tous les hommes ne doivent-ils pas s'aimer les uns les autres et se pardonner les uns aux autres, en ce jour de son évangile? Car Christ a dit, « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. » Matthieu 7:1-2 Et les chrétiens ne devaient pas se juger ni se mépriser les uns les autres au sujet des aliments, ni de l'observance des jours, mais que chacun soit pleinement convaincu dans son propre esprit. Rome 14 jusqu'à la fin. Col 2:16-17. Et l'apôtre Paul a dit à l'Église de Christ, « Non pas que nous ayons domination sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car c'est par la foi que vous tenez ferme. » 2 Cor 1:24. Ainsi la foi étant le don de Dieu, dont Christ est l'auteur et le consommateur, les apôtres ne revendiquaient pas une domination sur la foi, qui est le don de Dieu dans la conscience des gens. Et l'apôtre a dit, « Dieu a départi à chacun une mesure de foi, comme en Rome 12:3, et cette foi a dit l'apôtre, agit par l'amour, Galates 5:6-22. Et encore l'apôtre a dit, « Tout ce qui n'est pas de la foi est péché, Rome 24:13. Et la justice de la foi a dit, « La parole est dans le cœur et dans la bouche, pour lui obéir et pour la mettre en pratique. » Et l'apôtre a dit, « Ils ne devaient pas médire les uns des autres ni se condamner les uns les autres, car celui qui le fait parle contre la loi et condamne la loi, et ne l'accomplit pas. » Jacques 4:11. Car la loi de Dieu commande aux gens de s'aimer les uns les autres, et non de se persécuter les uns les autres, oui, d'aimer les ennemis. Et l'apôtre a dit, « L'amour ne fait point de mal au prochain. » Et l'apôtre Pierre a dit, « Honorez tous les hommes, et aimez la fraternité. » Ainsi, s'ils ont honoré tous les hommes, alors ils les estiment tous comme étant les créatures de Dieu, pour lesquelles Christ est mort et s'est donné en rançon. Et l'apôtre a dit à l'Église de Christ, « Bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, 2 Cor 10:3-4, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, a dit l'apôtre, F6:12. Et dans ce chapitre, vous pouvez voir l'armure spirituelle des saints et les armes spirituelles. Ainsi, il est clair que les chrétiens, au jour des apôtres, n'utilisaient pas d'armes charnelles et ne luttaient pas contre la chair et le sang, et leur combat n'était pas charnel en matière de foi et de religion dans l'Église de Christ et dans le fait de servir et d'adorer Dieu. Et l'apôtre Pierre a dit, « Les anciens ne devaient pas dominer sur l'héritage de Dieu, mais qu'ils soient des exemples par une bonne vie et une bonne conduite, et une saine doctrine, non par contrainte pour un gain honteux, mais volontairement d'un esprit prompt. » 1 Pie 5, 1-2. Et l'apôtre Pierre a dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, mais dans toute nation, celui qui craint Dieu et pratique la justice lui est agréable. » Et cela, l'apôtre Pierre l'a dit lorsqu'il est allé parmi les gentils, lui qui par nature était juif. Donc si Dieu accepte, dans toute nation, tous ceux qui le craignent et pratiquent la justice par conséquent, tous ceux qui ont l'esprit de Christ et professent le vrai christianisme, ne doivent-ils pas être attentifs envers ceux qui craignent Dieu et pratiquent la justice? Et tous les chrétiens qui aiment Christ ne doivent-ils pas garder le commandement de Christ, s'aimer les uns les autres et aimer les ennemis? Alors ils ne peuvent persécuter, dépouiller les biens ni emprisonner qui que ce soit au sujet de l'Église, de la foi, de la religion et de l'adoration de Dieu. Et Dieu reprend et juge ceux qui bâtissent Sion avec du sang, car le Seigneur a dit, « Sion, qui est bâti avec du sang, sera labouré comme un champ, retourné sans dessus-dessous. » Michée 3, 10-12. Ainsi vous pouvez voir que ceux qui bâtissent avec le sang et la persécution, leur œuvre ne prospère pas. Car le corps, ou Église de Christ, est édifié, lié, uni, et construit ensemble par l'amour de Dieu. F4, 16, Col 2, 1-9. Post-scriptum, tous les chrétiens qui professent le christianisme ne disent-ils pas ces mots dans la prière du Seigneur, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et Christ ne dit-il pas, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos offenses, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, 12, 14-15. Ainsi vous pouvez voir ici que tous les chrétiens de la chrétienté prient Dieu conditionnellement pour que Dieu leur pardonne leurs offenses contre lui, comme il pardonne aux hommes leurs offenses contre eux. Et par conséquent, il convient à tous les chrétiens d'être sérieux et de considérer ce qu'ils font lorsqu'ils prient Dieu, afin qu'ils pardonnent aux autres, comme ils voudraient que Dieu leur pardonne. Et s'ils pardonnent, ils ne haïront pas et ne persécuteront pas, mais ils aimeront. George Fox. Comment le peuple de Dieu ne doit pas prendre dans sa bouche les noms des dieux païens, ni suivre leurs coutumes, ni apprendre leur voix, par G. F. Ainsi a dit le Seigneur à la maison d'Israël, « N'apprenez pas la voix des païens, et ne soyez pas effrayés par les signes du ciel, car les païens en sont effrayés, car les coutumes des peuples sont vaines, car ils sont tous ensemble stupides et insensés. Leur enseignement n'est qu'une doctrine de vanité. Vous leur direz ainsi, « Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, ceux-là périront de la terre et de dessous ces cieux. » Jer 10, 2-11. « Répand ta fureur sur les païens qui ne te connaissent pas, et sur les familles qui n'invoquent pas ton nom, car ils ont dévoré Jacob, l'ont dévoré et consumé, et ont rendu sa demeure déserte. Mais le Seigneur est le vrai Dieu, il est le Dieu vivant et un roi éternel, à sa colère la terre tremblera, et les nations ne pourront supporter son indignation. » Jer 10, 10-25. Ici vous pouvez voir que ceux qui suivaient les vaines coutumes des païens, apprenaient leur voix et suivaient la doctrine de leur vanité, sont insensés et stupides, et tels adorent des dieux faits de mains d'hommes, qui n'ont pas fait les cieux et la terre, et tous ces dieux, le Seigneur a dit qu'ils périraient de la terre et de dessous ces cieux. Comme vous pouvez le voir, ceux qui ont appris la voix des païens, ont suivi leurs vaines coutumes et doctrines de vanité, et étaient insensés et stupides, et étaient effrayés par les signes du ciel. Ce sont ceux-là qui dévorent Jacob, la seconde naissance, et cherchent à le dévorer, à le consumer et à rendre sa demeure déserte. Ainsi les Juifs, les enfants d'Israël, ne devaient pas apprendre les voies des païens, ni leurs vaines coutumes, ni suivre leur doctrine de vanité, car ceux qui le faisaient étaient insensés et stupides. Et la part de Jacob, la seconde naissance, n'est pas comme eux, car le Seigneur est sa part. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël dans l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance, « Dans toutes les choses que je vous ai dites, soyez circonspects, et ne faites aucune mention des noms d'autres dieux, qu'on ne les entende pas sortir de votre bouche. » Exode 23, 13. Ainsi, ici vous pouvez voir que le peuple de Dieu ne devait faire aucune mention des noms d'autres dieux, à savoir des dieux des païens faits de mains d'hommes, et qu'on ne devait pas les entendre sortir de leur bouche, car il a dit, « Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre périront de la terre et de dessous ces cieux. » Jer 10, 11. Et le peuple de Dieu ne devait pas apprendre la voix des païens, ni suivre les vaines coutumes des peuples, car ils sont tous ensemble stupides et insensés, et leur enseignement est une doctrine de vanité. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, était entièrement interdit de telles choses, mais il devait servir et craindre le Seigneur Dieu. Les anciens Saxons païens, dans leur idolâtrie, ont introduit les noms des jours d'après leur Dieu, et ces soi-disant chrétiens les ont conservés jusqu'à ce jour. Pourtant, ils disent que l'Écriture est leur règle pour leur foi et leur pratique, et pourtant leur pratique est tout à fait contraire à l'Écriture et au commandement de Dieu. Le premier jour de la semaine, les Saxons idolâtres adoraient l'idole du soleil, d'où vient Sunday ou Sunday. Le deuxième jour de la semaine, ils adoraient la lune, d'où vient Monday ou Moonsday. Le troisième jour, ils adoraient l'idole de la planète qu'ils appelaient Twisco, d'où vient Tuesday. Et de leur idole Woden vient Wodensday, appelé Wednesday. Et de leur idole Son vient Thursday. Et de leur idole Frigga vient Friday. Et de leur idole Saturne vient Saturday. Et les païens appelaient Mars le dieu de la guerre. Et de là ils ont appelé le premier mois Mars astérisque et Vénus, ils l'appelaient la déesse de l'amour et de la beauté. Et de là ils ont appelé le deuxième mois April. Maja, une déesse païenne, ainsi que Flora et Chlori, étaient appelées les déesses des fleurs. Aux idoles païennes, on sacrifiait à Maja. De là le troisième mois a été appelé mai. Et le premier jour de mai, ils avaient coutume de célébrer la fête de Flora pour les deux déesses des fleurs, à savoir Flora et Chlori. Flora était une catin prostituée à Rome, qui le premier jour de mai, avait coutume de dresser un mât de mai devant sa porte pour attirer ses amants, d'où sont venus les mâts de mai, d'abord observés. De la déesse païenne Junon vient le quatrième mois appelé June. En l'honneur de Jules César, empereur romain, désigné comme un dieu romain, ils ont appelé le cinquième mois July. Et le sixième a reçu le nom d'August, en l'honneur d'Auguste César désigné comme un dieu romain. Et Septembre, Octobre, Novembre et Décembre sont appelés d'après le latin. Et un certain Janus, roi d'Italie, fut pour sa sagesse représenté avec deux visages, il l'honorait comme un dieu, et de ce nom Janus est venu le onzième mois, appelé January. Et Saturnus, Pluto, Phoebru étaient appelés les dieux de l'enfer, auxquels les païens attribuaient la domination sur les mauvais esprits, et de Pluto, Phoebru, le douzième mois a été appelé February. Astérisque en usage au XVIII siècle, l'année de l'ancien calendrier julien commençait en mars et se terminait en février. Il a été remplacé par le calendrier grégorien, aujourd'hui en usage, qui commence en janvier et se termine en décembre. Ainsi, ici vous pouvez voir comment les chrétiens appellent les jours, et beaucoup des mois, d'après les dieux et déesses païens, et non d'après les Écritures, qui au commencement les appelaient premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Et appelaient les mois premier, deuxième, troisième, jusqu'au douzième. Et le Seigneur a commandé aux Juifs, son peuple, comme il a été dit plus haut, « Dans toutes les choses que je vous ai dites, soyez circonspects, et ne faites aucune mention des noms d'autres dieux, qu'on ne les entende pas sortir de votre bouche. » Exode 23, 13. Maintenant, vous tous qui professez le christianisme, comment obéissez-vous au Seigneur et êtes-vous circonspects, vous qui faites mention des noms d'autres dieux et déesses, si souvent entendus sortir de la bouche de vous et de vos enfants, pour les maintenir en mémoire, dans votre bouche et dans celle de vos enfants, vous les mettez dans vos almanachs, de peur de les oublier. Dites que l'Écriture est votre règle, et cependant vous désobéissez au commandement de Dieu et aux saintes Écritures de vérité, et vous vous mettez souvent en colère contre le peuple de Dieu et vous vous en moquez, vous les appelant par dérision Quakers, parce qu'ils ne nomment pas les mois et les jours d'après les dieux et déesses des païens, mais les nommant selon ce que les saints hommes de Dieu, dans l'Écriture de vérité, les ont d'abord appelés, et ils ne peuvent les appeler d'après les dieux et déesses idolâtres des païens, ni mentionner leur nom, comme vous. Le Seigneur a dit, « J'ôterai du pays les noms des idoles, et on ne s'en souviendra plus. » Zac 13, 2. Et le Seigneur a dit, « J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et on ne s'en souviendra plus par leur nom. » Os 2, 17. George Fox, un témoignage pour la vérité de Dieu, premièrement, concernant la nouvelle Jérusalem céleste et Jérusalem d'en bas. Deuxièmement, concernant Christ, la grande montagne qui remplit toute la terre. Troisièmement, comment l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, et pour être des aides convenables l'un pour l'autre. Quatrièmement, comment chacun doit faire fructifier le talent que Dieu lui donne pour sa gloire et leur bonheur éternel, par G. F. L'apôtre écrit à l'Église de Christ et dit, « Jérusalem qui est en haute et libre, elle est la mère de nous tous. Tous les enfants de Jérusalem naissent de l'Esprit et sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et à tous ceux qui reçoivent Christ, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Et quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et ceux qui croient en la lumière, la vie en Christ, deviennent enfants de la lumière, comme en Jean 1, 12, 12, 36, 1 Jean 5, 1, 4. Et maintenant, dans cette lumière, puissance et esprit céleste, ils en viennent à être les enfants de la Jérusalem céleste qui vient d'en haut. Car ceux qui haïssent la lumière et font le mal sont condamnés par elle, et ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas, mais tout le vrai chrétien dans la Nouvelle Alliance et le Nouveau Testament en Jésus-Christ à qui Christ a donné sa vie, qui est sa lumière et sa puissance, ceux qui croient et le reçoivent deviennent enfants de la lumière et fils de Dieu. Ainsi ils sont enfants de la Jérusalem céleste, nés d'en haut de l'Esprit et de la lumière. L'apôtre a dit aux Hébreux convertis, Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, et de myriades d'anges, de l'assemblée solennelle et de l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux, et de Dieu juge de tous, et des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus médiateur de la nouvelle alliance. Et les enfants de Jérusalem étaient alors venus à la montagne de Sion, pendant qu'ils étaient encore sur la terre. Les enfants de Dieu, nés de l'Esprit, et les enfants de la lumière, étaient venus là au jour des apôtres, ils étaient venus à cette montagne céleste de Sion, qui domine le monde entier. Car le Sion naturel, la tour de guet, dominait Canaan, mais ce Sion céleste dont parle le Nouveau Testament, qui est la joie de toute la terre, domine toute la terre, et dans ce Sion joyeux, Christ l'élu et le précieux a été posé. 1 Pie 2:6. Christ le libérateur sort de ce Sion. Rome 11:26. Les enfants de la Jérusalem céleste, qui est la cité du Dieu vivant, voient la myriade d'anges. N'est-ce pas cette cité qu'Abraham, Isaac et Jacob ont cherchée, celle qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur? N'est-ce pas cette Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant, qu'ils ont cherchée? Et tous les enfants de Jérusalem céleste ne sont-ils pas inscrits dans les cieux? Puisque l'apôtre a dit, « Jérusalem qui est en haute est la mère de nous tous, de ceux qui croient en Christ, le reçoivent, et sont nés de l'Esprit. Et ils étaient venus à l'Assemblée générale, à l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux, et à Dieu, juge de tous, et aux esprits des justes parvenus à la perfection. » Tous ceux-là étaient et sont nés de l'Esprit, eux qui viennent à Sion et à Jérusalem céleste, et à Dieu et à son Fils, et aux esprits des justes rendus parfaits, car c'est la naissance spirituelle, les enfants de la Jérusalem céleste qui voient ces choses et les connaît. Ce qui est né de la chair est chair et peut connaître les choses charnelles, et ce qui est né de l'Esprit est esprit et connaît les choses spirituelles. Jean dans l'Apocalypse a vu la grande cité sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux, ayant la gloire de Dieu. Et sa lumière était semblable à une pierre précieuse, et la cité n'avait besoin ni du soleil, ni de la lune, ni d'une lampe, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau en est la lumière. Cette Jérusalem céleste était et est la mère de tous ceux qui reçoivent Christ, qui leur donne le pouvoir de devenir fils de Dieu, et ceux qui croient en la lumière sont enfants de la lumière et marchent dans la lumière de leur mère, la nouvelle Jérusalem. Et vous pouvez lire comment cette nouvelle Jérusalem est ornée de perles, figurativement, et comment sont écrits sur la muraille les noms des 12 tribus et des 12 apôtres, et de l'agneau, ces portes ne seront point fermées pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit là. Ainsi ici vous pouvez voir qu'il n'y a pas de nuit ici, mais toujours le jour, dans la cité sainte, la nouvelle Jérusalem céleste qui est d'en haut. Tous les enfants de la lumière, et ceux qui sont nés de l'Esprit d'en haut, la voient comme leur mère, et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront dans la lumière de cette cité, la nouvelle Jérusalem qui est d'en haut. Et tous les enfants de Jérusalem, qui ont vaincu, ont droit à l'arbre de vie, et boivent de l'eau de la vie dans cette nouvelle Jérusalem céleste. Et dans cette Jérusalem céleste, il n'y aura plus de malédiction, et rien de souillé n'y entrera, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et celui qui vainque, dit Christ, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Ici vous pouvez voir les enfants de la nouvelle Jérusalem, et le nom de Dieu, et de la cité sainte, et le nom de Christ écrit sur eux, et le nom de leur Père écrit sur leur front, afin qu'ils sachent qu'ils sont les enfants de la nouvelle Jérusalem, et de Dieu et de Christ, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Apoc 22, 4, 3-12. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, enfants de la Jérusalem céleste et de Sion. Et donc, tous ceux qui sont nés de l'Esprit, les enfants de la lumière, qui croient en Christ et le reçoivent, leur mère est la nouvelle Jérusalem céleste, et cette naissance spirituelle ne peut reconnaître aucune mère au-dessous de cette nouvelle Jérusalem céleste. Tous les nouveau-nés de Jérusalem céleste sont nourris du lait pur de la parole, et les enfants de la femme esclave, nés selon la chair, persécutent les enfants de la nouvelle Jérusalem céleste, nés selon l'Esprit. Les enfants de la femme esclave sont dans la servitude, mais les enfants de Jérusalem, qui est d'en haut, sont libres et rendent gloire au Seigneur Dieu sur toutes choses pour toujours. Ainsi la nouvelle Jérusalem céleste enfante une génération nouvelle et céleste, une maisonnée spirituelle, des citoyens célestes et spirituels, et un sacerdoce royal, qui offre des sacrifices vivants et spirituels. Et au jour des apôtres avant l'apostasie, tous les vrais croyants et disciples de Christ avaient pour mère Jérusalem qui est en haut. Mais depuis les jours des apôtres, dans l'apostasie, les chrétiens extérieurs se sont divisés en de nombreuses sectes, et ils se sont donnés de nombreuses mères, et par la loi, ils y contraignent les autres. Mais ceux qui sont tirés hors de la nuit de l'apostasie, par la lumière, la puissance et l'Esprit de Jésus-Christ, sont venus à la nouvelle Jérusalem céleste, ceux-là ne peuvent reconnaître aucune des mères des chrétiens extérieurs qui ont été établies inventées depuis les jours des apôtres. Ces mères inventées des chrétiens sont au-dessous de la Jérusalem céleste, qui est d'en haut, en laquelle il n'y a ni secte ni schisme, ni déchirure ni division, ni crêle ni dispute, car rien d'impur n'y entre. Et le Seigneur a dit, « Voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et les choses précédentes ne seront plus rappelées ni ne reviendront à l'esprit. » Ésaïe a vu cela par prophétie. Isaïe 65, 17. Et Jean a dit, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Apoc 21, 1. Et le Seigneur a dit, « Voici, je crée Jérusalem pour la réjouissance et son peuple pour la joie. Je me réjouirai en Jérusalem et je prendrai plaisir en mon peuple, et l'on n'y entendra plus la voix des pleurs ni les cris. » N'est-ce pas cette Jérusalem céleste dont Ésaïe a prophétisé, Isaïe 65, 18-19, et n'est-ce pas cette Jérusalem céleste que Jean a vue dans l'Apocalypse, 21-2-4? Cette nouvelle Jérusalem céleste qui est en haut brille sur toutes les nations, car les nations de ceux qui sont sauvés marchent dans sa lumière, où il fait toujours jour et où il n'y a pas de nuit, car le Seigneur Dieu et l'Agneau en sont la lumière, et c'est dans cette lumière que marchent les nations de ceux qui sont sauvés. Les hommes naturels peuvent connaître les sciences naturelles, et les langues naturelles, et les arts naturels, et la philosophie naturelle, car les Juifs naturels et Pilate ont pu mettre leur langue naturelle, qui ont commencé à Babel, au-dessus de Christ, et pourtant le crucifier. La prostituée de Babylone et de confusion astérisque la mère des prostituées a pouvoir sur les langues naturelles, qui se sont prostituées en s'éloignant de l'Esprit de Dieu vers l'amour du monde. Et ainsi ces hommes naturels, avec ces choses naturelles, ne savent rien, mais suivent leur propre esprit et ne voient pas les choses de Dieu. Elles leur sont folies, mais Dieu répand son esprit sur tous les hommes naturels, sur toute chair, afin que par son esprit, ils connaissent les choses de Dieu, le servent et l'adorent en esprit et en vérité, et connaissent-la. Astérisque Fox dit que Babylone signifie confusion. Assurément, nous pouvons constater la confusion de Babylone, puisque la plupart d'entre nous ont traversé les fausses églises, perplexes, confus et trompés, jusqu'à ce que nous commencions à voir clairement les mensonges, un à un, jusqu'à ce que le nombre des mensonges et leur gravité nous enchassent à la recherche de la vérité. Car les mensonges justifient l'amour du monde, étant un esprit prostitué qui s'éloigne de Dieu vers d'autres amants. Les élus ne peuvent supporter d'écouter des mensonges et sont ainsi sortis d'elles. Jean a vu la mer des prostituées, ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus, et leur sang se trouvait dans la mer des prostituées, Babylone la mystérieuse, la fausse église. Et ces saints, martyrs de Jésus, et prophètes, n'étaient-ils pas des enfants de la Jérusalem céleste, dont le sang était et est trouvé dans la mer des prostituées, la fausse église, Babylone la mystérieuse, Apoc 17, 6, 18-24. Celui qui est né selon la chair a persécuté celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant, Gal 4-29, et les enfants de la nouvelle Jérusalem, qui est en haute et qui est votre mère, eux et leur mère n'ont jamais persécuté personne. Mais la mère de Babylone la mystérieuse et des prostituées, elle et ses prostituées ont été et sont les persécutrices, en qui se trouve le sang des justes, les enfants nés libres de Jérusalem d'en haut. George Fox comment toutes les nations peuvent voir, avec la lumière, la vie en Christ, lui la grande montagne qui remplit toute la terre. Concernant la pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, dont il est parlé dans Daniel 2, qui mit en pièce la statue dont la tête était d'or pur, laquelle était la monarchie de Nabuchodonosor et des Babyloniens, et qui devait mettre en pièce la poitrine et les bras d'argent, qui était la monarchie des Mèdes et des Perses, et aussi mettre en pièce le ventre et les cuisses des reins, qui était la monarchie des Grecs, et les jambes de fer, et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, qui était la monarchie des Romains. Ainsi toutes ces quatre monarchies n'étaient qu'une seule statue. La tête était d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses des reins, les jambes de fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et cette même pierre détachée de la montagne brisa en morceaux l'image de fer, d'argile, d'argent, d'airain et d'or, et ils devinrent comme la balle de l'air en été, et le vent les emporta, de sorte qu'on ne trouva plus de place pour eux. Ainsi c'était la fin de ces quatre monarchies, et la pierre qui frappa l'image devint une grande montagne et remplit toute la terre. Dan 2, 31-35. Et dans les jours de ces rois ou de ces quatre monarchies, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera pas laissé à un autre, mais il consumera et détruira tous ces royaumes, et il subsistera à jamais, et de son royaume il n'y aura point de fin. Dan 2, 44. Or cette pierre n'est-elle pas Christ, qui devient une grande montagne et remplit toute la terre? Et n'est-il pas venu au temps de ces quatre monarchies, lui qui les a mises en pièces et a établi son royaume, et Christ n'a-t-il pas dit, quand il fut venu, « Mon royaume n'est pas de ce monde », et n'a-t-il pas dit aussi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Or le royaume de Christ est un royaume éternel qui ne sera jamais détruit, mais subsistera à jamais, et son royaume subsiste en la justice, la puissance, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et Christ a dit à Nicodème, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et encore, il lui a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3:3-5. Et l'apôtre a dit aussi, qu'aucun homme souillé ou impur n'entrera dans le royaume de Dieu et de Christ, et l'homme naturel ne connaît pas les choses de Dieu, elles sont folies pour lui. Ainsi ce royaume éternel de Dieu, établi il y a plus de 1600 ans, n'aura jamais de fin, car aucune personne impure ou souillée ne peut y entrer, et nul ne peut le voir ni entrer à moins de naître de nouveau d'eau et d'esprit. Ce royaume éternel demeure et subsiste au-dessus de tout, et les impurs et souillés ne peuvent y entrer, et ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent y entrer ni le voir. Ils ne sont donc pas en mesure de détruire ce royaume éternel, il demeure ferme et n'aura jamais de fin, quoique les impurs. Et les apôtres ont dit aux saints qu'ils ont été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Col 1:13, et n'était-ce pas pendant qu'ils étaient sur la terre? Ainsi cela était né de nouveau, et Christ a dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, et Jean était le plus grand prophète né d'une femme, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean, et depuis que Jean-Baptiste a prêché, les hommes se pressaient d'entrer dans le royaume, et ce sont ceux qui sont nés de nouveau et qui ont l'œil spirituel, qui voient la fin des prophètes et de Jean, qui voit le royaume spirituel éternel de Christ et s'y presse. Or Christ est la pierre qui est devenue la grande montagne et qui remplit toute la terre, notée, toute la terre, et nul ne fera de mal ni ne détruira sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. Isa 65:25. Et c'est la montagne de la maison du Seigneur, établie au sommet de toutes les montagnes et élevée au-dessus des collines. Isa 2:2-4:1. Or Christ, cette montagne, qui remplit toute la terre, vous pouvez dire, quoi, remplit-elle l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, et l'est l'Ouest, le Nord et le Sud? Je dis oui, Christ, cette montagne, remplit toute la terre, et il éclaire tout homme qui vient dans le monde entier, car en lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes, Jean 1:9-4. C'était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, et tout homme, avec cette vraie lumière, la vie en Christ, tant en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique, tant aller à l'Ouest, au Nord et au Sud, qui est venu dans le monde, peut, dis-je, par cette lumière divine, la vie en Christ, voir Christ la montagne dans son propre pays qui remplit toute la terre. Car la lumière brille dans leur cœur pour donner la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. 2 Cor 4:6. Et Christ a dit, « Croyez en la lumière, afin que vous deveniez enfants de la lumière. » Jean 12:36. Ainsi la lumière, qui est la vie en Christ, donne la connaissance de lui en tout lieu, lui qui est la montagne qui remplit toute la terre, car la lumière est la vie en Christ, cette grande montagne glorieuse, et ceux qui croient en la lumière, la vie en Christ, et sont devenus enfants de la lumière, voient ce royaume glorieux et éternel et y entrent, et ainsi ils sont les enfants du royaume de Dieu et de Christ. Le Seigneur a dit, parlant de Christ, « J'ai établi mon roi sur ma sainte colline de Sion, ou sur Sion, la colline de ma sainteté. Demande-moi, et je te donnerai les païens pour héritage, et les extrémités de la terre pour possession. » Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Soyez donc sages maintenant, ô roi. Soyez instruits, vous juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans la voie, quand sa colère s'embrase un peu. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Comment les rois peuvent-ils être sages, et les juges instruits, et baiser le Fils, et demeurer dans sa voie, et se confier en lui, sinon en croyant en sa lumière divine, qui est la vie en Christ? Or Christ, par sa lumière divine, hérite des païens et possède les extrémités de la terre chez ceux qui le reçoivent, mais la colère de l'agneau se tourne contre ceux qui pratiquent le mal et haïssent la lumière, qui est sa vie. Alors il les met en pièces comme un vase de potier, et ils périssent hors de sa voie. C'est pourquoi tous doivent croire en la lumière, qui est la vie en Christ, la grande montagne qui remplit toute la terre. Ici, sur cette montagne, le Seigneur leur enseignera ses voies, ainsi la connaissance du Seigneur couvrira la terre comme les eaux couvrent la mer. Le royaume éternel de Dieu et de Christ est au-dessus de tout, de génération en génération, et le sceptre de son royaume est un sceptre de justice, et il règne sur les royaumes des hommes, car par lui les rois règnent et les princes décrètent la justice. Et je ferai durer sa postérité à jamais, et son trône comme les jours des cieux. George Fox, ici vous pouvez voir comment l'homme et la femme étaient des aides convenables dans le gouvernement, quand Dieu les a faits à son image de justice et de sainteté, et comment Christ restaure l'homme à son image de nouveau, et comment l'homme et la femme sont un en lui, et de l'accroissement du gouvernement de Christ et de la paix, il n'y a point de fin. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Ainsi Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa, et il les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur elle comme auparavant, comme en Genèse 1:26-28. Ici, la femme, qui était l'aide assortie pour Adam, et eux deux, mâles et femelles, étaient des aides assorties, unies dans le gouvernement, la domination et la direction, étant à la ressemblance et à l'image de Dieu, et ils y furent bénis. Car Dieu leur dit, remarquez, à eux, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la et dominez sur elle. Et cela était avant que l'homme et la femme ne déchoient de son image. Ainsi Dieu, qui fit l'homme et la femme à sa propre image, leur donna une intelligence pour comprendre ce qu'il leur disait. Et l'apôtre dit aux Colossiens, « Puisque vous avez dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et que vous avez revêtu l'homme nouveau, qui est renouvelé dans la connaissance selon l'image de Dieu qu'il a créé, où il n'y a ni grec ni juif, ni circoncision ni incirconcision, barbare, scythe, esclave ni homme libre, mais où Christ est tout et en tout. » Col 3, 9, 11. Or ce vieil homme, en Adam dans la chute, doit être dépouillé, et l'homme nouveau, dans l'image de Dieu tel que Dieu les fit et les créa à l'origine, doit être revêtu dans la justice et la sainteté. Dans de tels hommes et femmes rétablis à l'image de Dieu, Christ est tout et en tout, un souverain et un gouverneur, de sorte qu'il règne dans le mâle et dans la femelle, dans l'homme nouveau, dans l'image de Dieu, et ils le connaissent comme souverain et gouverneur. Ésaïe a dit, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, le gouvernement sera sur ses épaules, et son nom sera appelé le Merveilleux, Conseiller Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. À l'accroissement de son gouvernement et de la paix il n'y aura pas de fin. » Ésaïe 9, 6, 7. Et le Seigneur dit, « Voici, une vierge concevra et enfantera un fils, et elle appellera son nom Emmanuel, Dieu avec nous. » Ésaïe 7, 14. L'homme fut chassé loin de Dieu à cause de son péché et de sa transgression, mais Christ, son Fils, met fin au péché et achève la transgression, et Christ renouvelle l'homme et la femme, les ramenant à l'image de Dieu dans laquelle Dieu les avait créés, et ainsi l'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ainsi Christ est un souverain et un gouverneur en ceux qui ont revêtu l'homme nouveau, qu'il a renouvelé à l'image de Dieu, car en Christ Jésus, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais une nouvelle créature. Galates 6, 16. Car l'apôtre a dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Christ Jésus. » Galates 3, 27-28. Ainsi ici tous sont un en Christ, ceux qui sont baptisés dans la mort de Christ et qui l'ont revêtu, et de tels connaissent sa règle et son gouvernement, dont l'accroissement n'a pas de fin. L'apôtre dit aux Éphésiens, « Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées ou ordonnées, afin que nous y marchions, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Éph 2, 10, 3-17. Ainsi la nouvelle création en Christ Jésus est l'ouvrage de Dieu à son image, dans la justice et la sainteté, comme l'homme fut fait au commencement. Et de tels connaissent Christ comme souverain et gouverneur dans le mâle et la femelle, car Christ, qui est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte même de sa substance, qui détruit le diable et son œuvre, renouvelle l'homme et la femme en les ramenant à l'image de Dieu, comme Dieu les fit au commencement, et de tels le connaissent comme un souverain, un gouverneur, un conseiller et un père. Et l'œuvre des apôtres, qui avertissait tout homme et enseignait tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme parfait dans Christ Jésus, car en Adam dans la chute, ils étaient imparfaits, et ainsi afin d'être membres de son corps, et le mystère caché de tout temps et de toute génération, maintenant manifesté au saints, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Col 1, 27-28. Et Christ, étant en son peuple l'espérance de la gloire, espérance qui les purifie, comme lui-même est pur, et le gouvernement de Christ n'est-il pas sur ses épaules dans son peuple, et n'est-il pas en eux un merveilleux conseiller et un prince de paix, Ésaïe 9, 6. Et l'apôtre ne dit-il pas que Dieu a établi certains dans l'Église, qui est le corps de Christ, pour être des aides au gouvernement, à savoir dans l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté, où Christ est gouverneur et conseiller, et de tels ont revêtu l'amour, et l'amour, qui est le lien de la perfection, et la paix de Dieu règne dans leur cœur, par laquelle ils sont appelés à former un seul corps, dont Christ est la sainte tête, prince de paix, gouverneur et conseiller. Mais comme il y avait du temps des apôtres, des gens entêtés, des puissants. Et n'était-ce pas ce saint et pur gouvernement de Christ dans ses mâles et femelles, son peuple, son Église qu'il méprisait? Or ceux qui sont arrivés au point d'être comme un Carin et un Balaam, à entendre la voix de Dieu, et comme Corée, Dassen et Abiram qui sortirent d'Égypte, et qui ne sont jamais allés jusqu'à être baptisés dans la mort de Christ et à le revêtir, ni n'ont jamais été recréés en Christ Jésus, ni n'ont dépouillé le vieil homme d'Adam dans la chute pour être renouvelés de nouveau à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté, dans laquelle Dieu Tout-Puissant les fit. C'est pourquoi de tels Carin, Corée et Balaam ne sont jamais parvenus à connaître le gouvernement de Christ dans le mâle et la femelle, mais ils ont présomptueusement méprisé le gouvernement, comme Corée, Dassen et Abiram méprisèrent Moïse, et comme Balaam qui partit avec Balak pour maudire Israël. Mais Dieu l'en empêcha et le reprit pour son erreur, et il fut détruit à la fin, ainsi que Corée, Dassen et Abiram. Ainsi viendront à néant tous ceux qui méprisent le saint gouvernement de Christ dans ses mâles et ses femelles, Ne pensez-vous pas que Coré, Dasen et Abiram, et Balaam pouvaient prononcer de grandes paroles enflées de vanité, bien qu'ils fussent des puits sans eau, des arbres sans fruits, et des nuées emportées par la tempête, comme en 2 Pierre 2, 17 et Jude 11, 12, 13. De tels présomptueux sont maintenant reconnus à leurs fruits, comme c'était au jour des apôtres, eux qui méprisent le juste gouvernement de Christ dans son mâle et sa femelle. Et Christ, la semence bien-aimée, qui brise la tête du serpent chez tous ses disciples et détruit le diable et ses œuvres, régnera, lui à qui revient le droit, dans ceux qui sont baptisés dans sa mort et l'ont revêtu, qui ont dépouillé le vieil homme en Adam dans la chute et ont revêtu l'homme nouveau à l'image de Dieu, qu'il a créé dans la justice et la sainteté en de tels. Christ est un merveilleux conseiller, un gouverneur et un prince de paix, le même aujourd'hui et ainsi pour toujours dans son Église à travers tous les âges. Ainsi il régnera, dirigera et gouvernera, et il est un conseiller dans le cœur de son peuple, à qui cela revient de droit. Béni soit le Seigneur à jamais. Alléluia au Seigneur, et son Christ règne. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, Gênesis 1, 26. Or le Seigneur dit, faisons, et toutes choses n'ont-elles pas été faites et créées par Jésus-Christ, dont le nom est appelé la parole de Dieu, et Jean ne dit-il pas, il y en a trois qui rendent témoignage, ou portent le témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. Ainsi il y en a trois qui rendent témoignage et portent le témoignage dans le ciel. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois s'accordent en un. Et n'est-ce pas l'Esprit de Dieu qui mortifie les œuvres de la chair, et l'eau de la parole qui lave, et le sang de Christ qui purifie? Ne sont-ce pas ces trois qui rendent témoignage pour Dieu sur la terre, pour l'homme ou contre l'homme, ne sont-ils pas les témoins de Dieu sur la terre? Et le Seigneur a dit, de la bouche de deux ou trois témoins, à savoir des témoins humains, toute parole est établie parmi les hommes, mais le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes, que celui qui a des oreilles comprenne ces choses. 1 Jean 5, 7, 9. Ici vous pouvez voir comment chacun doit faire fructifier son talent astérisque que Christ lui donne, sinon, il lui sera ôté, et il sera jeté dans les ténèbres du dehors. Astérisque, un talent était une très grande somme d'argent, valant environ 500 000 dollars aujourd'hui. Le Seigneur se sert de l'argent pour représenter la mesure de l'Esprit de Dieu, donnée à chaque homme. Ce n'est pas un talent, comme chanter, parler, coudre, danser, peindre, etc. C'est la manifestation de l'Esprit qui est donnée à chaque homme. 1 Cor 1, 27 Christ Jésus a dit, « Le royaume des cieux est comme un homme qui voyage dans un pays lointain pour recevoir pour lui-même un royaume, et pour revenir, il a placé ses propres serviteurs et leur remit ses biens, à l'un il donna 5 talents, à un autre 2, et à un autre 1, et à chacun selon sa capacité, Matt 25, 14, 30, Luc 19, 12, 27. Et après longtemps, le Seigneur de ses serviteurs vient et règle ses comptes avec eux, et celui qui avait 5 talents en avait gagné 5 autres, et celui qui en avait 2 en avait gagné 2 autres. Et le Seigneur loua ses serviteurs et dit, « Bien bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre Seigneur. » Mais celui qui avait reçu l'unique talent alla creuser dans la terre et cacha l'argent de son Seigneur. Le Seigneur dit, « Ôtez-le-lui. » Et donnez-le à celui qui en a 10, et jetez le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Or ces talents qui furent donnés aux serviteurs du Seigneur, et à chacun selon ses capacités, étaient le trésor céleste du Seigneur, et non le leur mais celui du Seigneur, ils devaient et doivent faire fructifier ce trésor céleste pour le Seigneur, le mettre en œuvre et en tirer du gain pour le Seigneur lors de son apparition à eux, quand il leur demande compte, afin qu'il puisse être dit, « Bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du Seigneur. » Mais le serviteur méchant et paresseux, il est appelé serviteur lui aussi, cacha le talent du Seigneur dans son linge terrestre, et ne fit pas fructifier le trésor céleste du Seigneur, et il fut jeté dans les ténèbres du dehors. Considérez donc tous, à qui le Seigneur a donné plus ou moins de son trésor céleste, comment vous agissez, et comment vous avez mis en œuvre le trésor céleste du Seigneur et l'avez fait fructifier. Je parle du trésor céleste que vous avez du Seigneur Jésus-Christ, qui dit cela avant d'être crucifié, et après sa résurrection, n'est-il pas allé vers le Père pour recevoir un royaume, lui qui a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ainsi l'argent du Seigneur, ou le trésor des talents, doit être mis à profit et confié aux changeurs, afin qu'ils le reçoivent avec intérêt et bénéfice. Ainsi voici des changeurs des talents ou du trésor céleste du Seigneur, les faisant croître à l'avantage du Seigneur. Comme il y a des banquiers et des changeurs extérieurs, et des intérêts, où ils font fructifier leur argent extérieur pour gain et profit pour eux-mêmes. Mais ceci est une parabole que Christ dit au sujet de la mise en valeur de son trésor céleste de talent, que chacun doit faire fructifier, ou accroître ce talent céleste, ou cette mesure qu'il a reçue du Seigneur, comme de bons et fidèles serviteurs et intendants, s'ils entendent entrer dans la joie du Seigneur. La manifestation de l'Esprit est donnée à chaque homme pour l'utilité de tous. 1 Cor 12, 7 George Fox Kingston upon Thames, le 7 jour du 10 mois, 1687, un talent était une grande somme d'argent valant environ 500 000 dollars aujourd'hui. Jésus parlait en parabole délibérément pour les cacher aux sages et aux intelligents qui pensaient voir spirituellement, mais qui étaient aveugles spirituellement. Les guides aveugles de la chrétienté, sans la moindre idée de ce que signifiait cette parabole, décidèrent qu'il s'agissait d'une exhortation aux disciples de Jésus à mettre leurs capacités naturelles données par Dieu au service de Dieu et à prendre des risques pour le bien du royaume de Dieu. Les capacités naturelles, sans même un soupçon de spirituel, en sont ainsi venues à être connues sous le nom de talent dans la langue anglaise. Cela montre à quel point l'apostasie de la chrétienté est devenue profonde, elle s'est même incrustée dans notre langue, embrouillant davantage ceux qui cherchent à comprendre les enseignements de Jésus. La première mesure de Christ est la lumière, Christ qui est en tous les hommes venant dans le monde. Chacun a aussi le Saint-Esprit de Dieu, parce qu'il a été répandu sur toute l'humanité à la Pentecôte, Actes 2, 14-21, et la manifestation de l'Esprit est donnée à chaque homme. 1 Corinthiens 12, 7. Son esprit est enchaîné, soumis à votre esprit égoïste qui vous gouverne. Cette semence de Dieu attend d'être recherchée, écoutée et obéie, ce qui provoque la croissance. De la semence de Christ, enchaînée au-dedans d'un homme, Christ doit croître, tandis que l'esprit égoïste et rebelle de l'homme décroît, jusqu'à ce qu'enfin Christ apparaisse au-dedans d'un homme, pour être vu, pour être attesté, pour apporter le salut, pour apporter le royaume, pour apporter la gloire aux croyants purifiés. Christ est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, Jean 1, 9, afin que par la lumière tous les hommes puissent croire, Jean 1, 7, et en demeurant dans la lumière et en obéissant à la lumière, l'homme reçoit le salut pour devenir un enfant de la lumière, un fils de Dieu. Tant que vous avez la lumière, croyez en dépendez de faites confiance et obéissez à la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. Jean 12, 36, car Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre, 1 Jean 1, 5. Ainsi l'homme reçoit une petite mesure de lumière afin de croire ce qu'elle lui montre, ce qu'elle lui reproche, ce dont elle le convainc tant qu'un homme est vivant sur la terre. Cette semence, lumière ou esprit de Dieu, est votre talent, lequel talent est comme une semence qui doit grandir dans cette vie. Si vous ne la faites pas croître, dans la vie suivante elle vous est ôtée et donnée à un autre qui a fait fructifier son talent, tandis que vous êtes jeté, en tant que serviteur méchant et indigne, dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si un homme obéit totalement à la lumière, il deviendra un enfant de Dieu, un enfant de la lumière. Mais s'il est la lumière parce qu'elle reprend son mode de vie et son comportement égoïste, alors il meurt dans ses péchés. Et quand un homme meurt en péchant encore, Christ la lumière sort de lui, laissant l'homme dans les ténèbres totales qui est l'enfer. Alors la mesure de lumière que l'homme avait est donnée à un autre qui a fait fructifier son talent pendant qu'il vivait. Le résultat, une destruction éternelle loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance, 2 Corinthiens 9, l'homme est retranché de la vie, de la puissance et de la gloire de Dieu, demeurant dans les ténèbres totales. De la parole du Seigneur au-dedans, quand la lumière s'en va, tu paniqueras, tous les impies paniqueront. Cette semence, lumière ou esprit de Dieu est votre talent, qui doit être amélioré dans cette vie. Si vous ne le faites pas croître, dans la vie suivante il vous est ôté et donné à un autre qui a fait fructifier son talent, tandis que vous êtes jeté dans les ténèbres du dehors comme serviteur méchant et indigne, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'étape 1 est la semence de Dieu enchaînée. Pour lire au sujet des étapes 1 à 5, voyez le mystère Christ en vous, concernant les chrétiens apostats qui pensent faire des miracles par les os des morts, de prier les saints qui sont morts, de demander conseil aux morts et de prier pour les morts, concernant le purgatoire et le fait de faire un Dieu ou un Christ des éléments du pain et du vin. Concernant les traditions que les Juifs enseignaient, qui rendaient la parole et le commandement de Dieu sans effet, et les traditions que les chrétiens apostats enseignent aux gens à suivre et qu'ils établissent au-dessus des Écritures de vérité. Comment Christ est le vrai rocher, et non Pierre, et qu'il est la tête de la vraie Église, et doit donc être tenu pour tel par ses membres. L'ancienneté de la croix de Christ, qui fut et est reconnue comme la puissance de Dieu par sa vraie Église, par G.F. Le Seigneur a dit, « Quiconque touche le corps d'un homme mort ou meurt dans sa tente, et ne se purifie pas sous le tabernacle du Seigneur, et cette âme sera retranchée d'Israël parce qu'elle ne s'est pas purifiée, et quiconque touche quelqu'un tué par l'épée en rase campagne ou un cadavre ou l'os d'un homme ou un tombeau sera impur 7 jours, et s'il ne se purifie pas, il sera retranché du milieu de l'assemblée parce qu'il a souillé le sanctuaire du Seigneur. » Nom 19, 11, 13, 16. Et c'était la loi de Dieu, et une ordonnance perpétuelle parmi les Juifs. Et maintenant, vous, chrétiens apostats, imaginez-vous faire des miracles avec les os des morts, ou la poussière des tombes qui souillait les Juifs, et auxquels il n'était pas permis d'entrer dans le tabernacle ou le sanctuaire de Dieu, mais d'être retranchés selon l'ordonnance et le commandement de Dieu, s'ils n'étaient pas purifiés. Et maintenant, si vous, chrétiens apostats, alléguez que les Juifs enterrèrent un homme et le jetèrent dans le sépulcre d'Élisée, Et quand le mort toucha les os d'Élisée, il revêcut et se leva sur ses pieds. 2 Rois 13, 21. Mais où un tel miracle a-t-il jamais été accompli par les chrétiens apostats, en enterrant l'un dans la tombe d'un autre, qu'ils en produisent un exemple s'ils le peuvent, que tous les chrétiens apostats produisent une écriture où jamais les saints auraient pris les os des saints pour faire des miracles. De prier les saints qui sont morts, de demander conseil aux morts et de prier pour les morts. Que tous les chrétiens apostats produisent une écriture pour leur vaine tradition de prier pour les morts, ou aux morts, ou de demander conseil aux morts. Mais Saül, lorsqu'il eut transgressé le commandement de Dieu et lui désobéi, alla chez la sorcière d'Endor, feignant de faire monter Samuel pour demander conseil aux morts. Mais quelle fut la fin de Saül? Vous pouvez le voir en 1 Samuel 28, 11-20. Et David pria Dieu pendant que son enfant vivait, mais lorsque l'enfant fut mort, il cessa de prier Dieu pour lui et de jeûner, et dit « Maintenant l'enfant est mort, je ne puis le ramener, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » 2 Samuel 12, 16-23. Le sépulcre ne peut te louer, la mort ne peut te célébrer, ceux qui descendent dans la fosse ne peuvent espérer en ta vérité. Ésaïe 38, 18. Les morts ne louent pas le Seigneur. Psaume 115, 17. Et pourtant ne priez-vous pas les morts qui ne peuvent louer le Seigneur, et Salomon a dit « Les morts ne savent rien. » Éc 9, 5. Et pourtant ne priez-vous pas ceux qui ne savent rien, n'est-ce pas de la folie? Concernant la tradition des chrétiens apostats d'un purgatoire après leur mort, Salomon a dit « Tout retourne à la poussière, et qui connaît l'esprit de l'homme qui monte en haut, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné et donc pas au purgatoire. » Écle 3, 20, 21, 12, 7. Et Élisée pria pour l'enfant de la Sunamite qui était mort, et il fut rendu à la vie, ainsi il ne dit pas qu'il les priait hors du purgatoire. Et lorsque Lazare, ce pauvre homme, mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, et quand le riche mourut et fut enterré en enfer, il leva les yeux, étant dans les tourments et voyant de loin Abraham et Lazare dans son sein, il cria et dit « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit « Mon fils, souviens-toi que de ton vivant tu as reçu tes biens, et pareillement Lazare ses maux, maintenant il est consolé, et toi tu es tourmenté. » Et outre tout cela, entre nous et vous il y a un grand abîme fixé, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que de là on ne peut pas passer vers nous. Luc 16, 19, 26. Et maintenant ici, vous voyez que, lorsque Lazare mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, non au purgatoire, lui qui aurait été heureux d'avoir les miettes du riche au cœur dur qui tombait de sa table, et les chiens du riche eurent plus de compassion du pauvre homme en léchant ses plaies que lui. Mais quand ce riche mourut, et fut porté en enfer, ni Abraham ni Lazare ne pouvaient aller vers lui, ni l'en aider, ni lui vers eux, de sorte que ni Abraham ni Lazare ne pouvaient le soulager là, pas même d'un peu d'eau qui tienne au bout d'un doigt pour rafraîchir sa langue. Et Christ dit au voleur sur la croix, crucifié avec lui, « En vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. Ainsi il ne dit pas qu'il irait au purgatoire pour y être purgé, mais comme Abraham dit aux riches qui étaient en enfer, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés quand même quelqu'un ressusciterait des morts. C'étaient les Juifs à qui Christ disait cette parabole, eux qui érigeaient leur tradition et rendaient sans effet la parole de Dieu et son commandement. Ils n'étaient donc pas disposés à écouter Moïse et les prophètes, eux qui, comme les chrétiens apostats maintenant, mettent leur vaine tradition au-dessus des saintes écritures de vérité et permettent au peuple ignorant de lire leur tradition et leur refusent la lecture des écritures, contrairement aux saints hommes de Dieu qui les ont donnés pour être lus, crus, accomplis et pratiqués comme en 2 Tim 3, c'est. Applique-toi à la lecture, 1 Tim 4, 13. Et Christ exhorte ses auditeurs à demander en son nom, et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera, comme en Jean 16, 23, 26. Et encore, Christ enseigne à ses disciples à prier et à dire, Notre Père qui es aux cieux. Ainsi Christ n'a jamais enseigné à ses croyants à prier soit sa mère, la Vierge Marie, en son nom, soit quelques saints, ou au nom de quelques saints après leur mort, ni ses apôtres après lui. Et l'apôtre Jacques a dit dans son épître générale à l'Église de Christ, « Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement. » Jacques 1, 5. Et Jean a dit dans son épître générale à l'Église de Christ, « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons alors de l'assurance envers Dieu, et tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous obéissons à ses commandements et faisons les choses qui lui sont agréables. » 1 Jean 3, 21-22. Et encore Jean a dit, Voici l'assurance que nous avons en Dieu, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14-15. Et il est dit, Saül mourut à cause de sa transgression qu'il commit contre le Seigneur. Et aussi, pour avoir demandé conseil à quelqu'un qui avait un esprit de divination, la sorcière d'Endor, et ne s'être pas enquis du Seigneur, c'est pourquoi il le fit mourir. 1 Chron 10, 13-14. Et vous lisez au sujet de ceux qui ont tenu pour rien le conseil du Seigneur et n'ont voulu aucun de ses conseils, et quelle fut leur fin, Proverbes 25-26. Et le Seigneur a dit, « Mon peuple demande conseil aux morceaux de bois, eux qui s'étaient prostitués loin de Dieu. » Os 4-12. N'étaient-ce pas ces Juifs qui suivaient leur propre tradition et rendaient sans effet les commandements de Dieu, comme les chrétiens apostats qui prétendent prier des saints morts et pour les morts, qui dressent tant d'images et s'agenouillent devant elles? Mais écoutez ce qui est dit en Ésaïe 31. « Malheur aux enfants rebelles, dit le Seigneur, qui prennent des résolutions mais sans moi, et font des alliances mais non par mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. » Ainsi ici, vous pouvez voir quelle est la part de tous ceux qui se couvrent d'une couverture, mais non de l'Esprit de Dieu, et qui demandent conseil, mais non à lui. Concernant les traditions des chrétiens apostats, qui font un Dieu ou un Christ du pain et du vin, et le fait de se prosterner devant lui, de l'adorer, puis de le manger quand ils ont fini. Nous ne lisons jamais que les païens, ni les juifs apostats, après avoir fait des dieux, s'être inclinés devant eux et les avoir adorés, les mangeaient une fois cela fait. Les disciples de Christ lui dirent, le jour des pains sans levain, quand il fallait immoler la Pâque, où veux-tu que nous allions préparer afin que tu manges la Pâque? Marc 14, 12, Luc 22, 7. Or Christ, bien qu'il soit la Pâque chrétienne, ne se mangea pas lui-même. Et encore l'apôtre a dit, la nuit même où Christ Jésus fut livré, il prit du pain, le rompit et dit, faites ceci en mémoire de moi, et de même la coupe. Ainsi le corps de Christ était entier et n'était pas crucifié quand il rompit ce pain extérieur. Car ce qu'il devait prendre en mémoire de Christ, et comme témoignage de sa mort jusqu'à ce qu'il vînt, ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ, mais du pain extérieur et du vin dans une coupe extérieure, et Christ ne fut jamais appelé une coupe. Il est dit, Christ prit la coupe après avoir soupé, alors il ne prit pas son propre sang pour le leur donner, mais il l'appela le fruit de la vigne, Matt 26, 29. Et Christ prit la coupe et la donna à ses disciples et dit, buvez-en tout, et il prit le pain, le rompit et le donna aussi à ses disciples. Marc 14, 20-23, ils burent tous de la coupe, et il rompit le pain et le donna à ses disciples, à savoir les douze, comme en Luc 22. Alors il ne rompit pas son propre corps, car il était alors entier, et après avoir rompu le pain et le leur avoir donné, et leur avoir donné la coupe, et l'avoir appelé le fruit de la vigne, après que Christ leur eut donné cela, il dit, buvez-en tout. Matt 26, 25, Luc 22, 21. Voici, dit Christ, la main de celui qui me trahit est avec moi sur la table. Ainsi il semble ici que Judas mangea du pain et but du fruit de la vigne dans la coupe, et qu'il participa à ces éléments extérieurs la nuit même où Christ fut livré, éléments pris comme signe et mémoire de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vînt, mais Judas n'attendit pas jusqu'à ce qu'il vînt, car il le trahit. Or si ce pain extérieur avait été Christ, le pain vivant descendu du ciel, et son sang, dont si quelqu'un mange ce pain et boit son sang, il vivra à jamais et ne mourra pas, comme Christ a dit, « Quiconque mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et demeure en moi et moi en lui. » Et celui qui me mange vivra par moi, et celui qui mange ce pain qui descend du ciel vivra à jamais, voyez Jean 6, 50-59. Or ici vous voyez clairement que la coupe et le pain dont Judas mangea et but au dernier repas de Christ n'étaient pas la chair de Christ, le pain de vie descendu du ciel, ni son sang qui donne la vie éternelle, car Judas n'eut pas la vie éternelle, ni ne vécut à jamais en mangeant ce pain extérieur et en buvant cette coupe extérieure, le fruit de la vie. Ainsi Judas ne mangea pas Christ, ni ne vécut par lui, ni ne vécut à jamais, bien que Judas ait bu à la coupe extérieure, le fruit de la vigne, et ait mangé le pain extérieur que Christ rompit à son dernier repas, la nuit même où il le trahit. Judas mangea et but extérieurement, mais il ne mangea pas le pain du ciel, la chair du Fils de l'homme, et ne but pas son sang. De tel que Judas n'ont pas la vie éternelle en eux, comme Christ l'a dit, eux qui ne mangent pas sa chair et ne boivent pas son sang. Car Christ a dit, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Jean 6, 53. Et les Juifs murmuraient contre Christ lorsqu'il dit, « Je suis le pain descendu du ciel, et si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous, et celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Ainsi voici une grande différence entre la chair et le sang de Christ, le pain descendu du ciel qui donne la vie éternelle, et les éléments de pain et de vin que des réprouvés et des Judas peuvent prendre et manger, sans avoir la vie éternelle, ni connaître Christ comme étant en eux, comme l'apôtre l'a dit. Là où l'arbre tombe, là il demeure. Et 11-3. Et après qu'Ésaü eut vendu son droit d'aînesse, il le chercha soigneusement avec des larmes, mais il ne trouva aucun lieu de repentir. Et par conséquent, comment quelqu'un serait-il susceptible de se repentir et de sortir de la tombe et du purgatoire, comme vous l'appelez, après sa mort, puisque Ésaü ne put trouver le repentir sur la terre? Concernant les traditions des Juifs et des chrétiens apostats, Christ dit aux pharisiens, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par vos traditions, hypocrites? Ésaïe a bien prophétisé de vous, Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'adore, enseignant pour doctrine des commandements d'hommes. Ainsi vous avez rendu le commandement de Dieu sans effet par vos traditions. Matthieu 15:3-9. Et encore Christ dit aux scribes et aux pharisiens, laissant de côté le commandement de Dieu, vous retenez les traditions des hommes et de vos anciens, et encore il leur dit, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu, afin de garder vos propres traditions, rendant la parole de Dieu sans effet par vos traditions que vous avez transmises. Marc 7:3, 8-9-13. Or n'est-ce pas la condition des chrétiens apostats, qui établissent leurs traditions au-dessus des écritures de vérité, comme les juifs, et interdisent la lecture des écritures de vérité? Astérisque non, ne sont-ils pas pires que les juifs, car ils doivent lire et prier dans une langue inconnue? Ils sont donc comme des barbares, pires que les juifs qui lisent et prient dans leur langue maternelle? Astérisque il est évident qu'à cette époque, 1670, la secte catholique romaine interdisait la lecture des écritures à tous sauf aux prêtres. Ils lisaient et priaient aussi en latin, non dans la langue de leurs auditeurs. Et Paul dit à l'Église de Christ, « Vous avez entendu parler de ma conduite autrefois dans la religion des juifs, comment outre mesure je persécutais l'Église de Dieu et la ravageais, et j'étais plus avancé dans la religion des juifs que beaucoup de mes compatriotes de mon âge, étant d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, mais lorsqu'il plut à Dieu, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi afin que je le prêche, Galates 13-16. » Or ici vous pouvez voir que tant que Paul alors Saül non converti était zélé pour les traditions de ses ancêtres, il n'était pas séparé des traditions, ni appelé par la grâce de Dieu, et le Fils de Dieu n'était pas révélé en lui, par conséquent il n'était pas disposé à le prêcher, mais à le persécuter. Et maintenant tous les chrétiens apostats, dans leur zèle aveugle pour leurs ancêtres, comme Saül persécuteur, sont-ils séparés du Seigneur et non appelés ainsi par la grâce de Dieu, comme Paul le fut? Et le Fils de Dieu est-il révélé en ceux qui ont été de tels persécuteurs et ravageurs du peuple de Dieu, l'Église de Christ, depuis les jours des apôtres? Et si ce n'est pas le cas, peuvent-ils prêcher Christ en vérité, ou bien lui résister comme les Juifs dans leurs traditions, et établir les traditions au-dessus des saintes écritures de vérité qui rendent témoignage à Christ? Et après la conversion de l'apôtre, il dit à l'Église de Christ, « Prenez garde que personne ne vous entraîne par la philosophie et de vaines tromperies, selon les traditions des hommes, et non selon Christ. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme vivant dans le monde, vous soumettez-vous à des ordonnances? Ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas, choses qui périssent toutes par l'usage, selon les commandements et les doctrines des hommes. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Col 2:8, 20-22, 3-2. Ainsi vous pouvez voir que l'apôtre a détourné l'Église de Christ des traditions, doctrines et ordonnances des hommes, et des rudiments du monde, et il ne voulait pas qu'aucun homme la dépouille par la philosophie et de vaines tromperies, car de telles choses n'étaient pas selon Christ. Mais l'Église de Christ devait et doit chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et non celles qui sont sur la terre, qui sont en bas, il ne s'agit pas même de les toucher, goûter ou manier, elles qui périssent toutes par l'usage, mais les écritures de vérité, il leur faut les lire, les croire et les pratiquer. Car l'Église de Christ alors et maintenant sait qu'elle n'est pas rachetée de sa vaine conduite, ni des traditions de ses pères, par des choses corruptibles comme l'argent et l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache ni défaut. Gloire à Dieu à jamais, par le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'unique médiateur entre Dieu et l'homme, à savoir l'homme Christ Jésus, qui fait la paix entre nous et Dieu, le même aujourd'hui, hier et pour toujours. Christ est le rocher et le fondement que le Père Céleste a révélé à Pierre, sur lequel il bâtit son Église, et non sur Pierre, ni sur ce que la chair et le sang avaient révélé à Pierre. Jésus demanda à ses disciples, « Qui les hommes disent-ils que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et les disciples répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Ici vous pouvez voir qu'il y avait divers jugements et opinions au sujet de Christ parmi les gens qui ne le connaissaient pas. Et Jésus dit à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit, « Tu es heureux, Simon Barjona, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église. » Remarquez, il dit sur ce rocher, que la chair et le sang n'avaient pas révélé, il ne dit pas sur toi, Pierre, et les portes de l'Adès ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 13-18. Et Jésus montra à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort, et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre prit Christ à part et commença à le reprendre, disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et alors Christ se tourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tu ne t'attaches pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Matthieu 21-23. À présent, vous pouvez voir clairement ici que Christ ne bâtit pas son Église sur Pierre, en tant qu'homme de chair et de sang, ni sur ce que la chair et le sang révèlent, mais sur ce rocher astérisque que la chair et le sang n'avaient pas révélé à Pierre, mais le Père qui est aux cieux. Et je le dis encore, il est clair que Christ ne bâtit pas son Église sur Pierre et sur son nom extérieur, comme homme de chair et de sang, ni sur ce que la chair et le sang peuvent révéler, ou ont révélé à Pierre, mais il bâtit son Église sur ce rocher que le Père qui est aux cieux a révélé à Pierre, à savoir, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est là le rocher, et le fondement sur lequel l'Église véritable est bâtie, Christ, qui écrase la tête du serpent et détruit le diable et ses œuvres, de sorte que les portes de l'enfer ne peuvent ni ne pourront prévaloir contre l'Église de Christ, et contre lui, le rocher et le fondement sur lequel son Église est bâtie. Et bien que Christ ait béni Pierre en Matthieu 16-17, après sa révélation pourtant, dans le verset suivant, Matthieu 16-23, Christ dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Il est donc clair ici que Christ n'a pas bâti son Église sur Pierre, ni sur son nom extérieur Pierre, comme homme de chair et de sang, ni sur la révélation de la chair et du sang, ni sur Satan, car il écrase Satan, la tête du serpent, il n'allait donc pas bâtir son Église sur lui. Par conséquent, quiconque doit succéder à Pierre doit recevoir ce que le Père a révélé du ciel, à savoir, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, sur ce rocher je bâtirai mon Église » mais lorsque Pierre reprit Christ en disant, « Que cela ne t'arrive pas, Seigneur, cela ne doit pas t'arriver, à savoir quand Christ lui dit à lui et aux autres qu'il souffrirait, serait mis à mort et ressusciterait le troisième jour, Christ appela Pierre Satan et lui dit de passer derrière lui, comme auparavant. » Astérisque le Seigneur parle de ce même rocher, ou compréhension, ou révélation dans Luc. « Car quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison, qui a creusé, s'est enfoncé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Et lorsqu'une inondation survint, le torrent se jeta contre cette maison et ne put l'ébranler ni la déplacer, parce qu'elle avait été solidement bâtie ou fondée sur un rocher. » Luc 6, 47-48 « Il bâtit son église sur un fondement solide comme un rocher. Il se bâtit en vous sur un fondement solide comme un rocher. » Si vous allez à lui, au-dedans de vous, écoutez ses paroles, puis leur obéissez, vous avez identifié celui qui parle comme étant Christ, tout comme Pierre l'a fait dans le domaine physique, sauf que votre identification de Christ est dans le domaine spirituel en vous. Paul a dit, selon la grâce, le don particulier pour ma tâche de Dieu qui m'a été accordé, comme un architecte habile et maître d'œuvre, j'ai posé le fondement, et maintenant un autre homme bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 1 Corinthiens 3, dit le bon fondement est très important et déterminant pour votre croissance potentielle. Votre fondement viendra de Christ lui-même. Et Christ dit à Pierre qu'il lui était en scandale et qu'il n'avait pas de goût pour les choses de Dieu, mais pour celles des hommes, dans ce qu'il disait à Christ. Et quoi, y a-t-il des gens assez ignorants pour penser que Christ a bâti son Église sur Pierre, alors qu'il était dans cet état? Non, assurément, ils se trompent ceux qui le pensent et ceux qui succèdent à Pierre dans cet état ne goûtent pas les choses de Dieu, mais celles des hommes, et sont un scandale pour Christ que Christ appelle Satan et à qui il dit à Satan qui possédait Pierre et parlait par lui, de se mettre derrière lui, car il n'allait pas bâtir son Église sur ce qui lui était un scandale, qui n'avait pas de goût pour les choses de Dieu, mais pour les choses des hommes. Et par conséquent, ceux qui bâtissent leur Église sur de telles choses, les portes de l'enfer ont de fortes chances de prévaloir contre eux. Mais ce qui succède à Pierre dans cette révélation spirituelle que le Père a révélée du ciel, à savoir Christ, le Fils du Dieu vivant sur lequel rocher l'Église véritable est bâtie, et contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas, cela est au-dessus de Satan, et au-dessus de la révélation de la chair et du sang, et au-dessus de ce qui a offensé et offense Christ, et au-dessus de ce qui a le goût des choses. L'Église de Christ n'est pas bâtie sur de telles choses, mais sur le rocher qui est bien au-dessus d'elle, que le Père céleste révèle, et qui en a la gloire, lui qui est béni à jamais. Amen. George Fox maintenant, au sujet de celui que l'Écriture dit être le vrai rocher et le vrai fondement, David a dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Psa 18-2. Et encore David a dit « Car qui est Dieu sinon l'Éternel, ou qui est un rocher sinon notre Dieu ?» Psa 18-31. Et encore « Lui Dieu seul est mon rocher et mon salut, il est ma défense, je ne chancellerai point. » Psa 62-2-6. Et David parlant d'Israël a dit « Ils se souvinrent que Dieu était leur rocher. » Psa 78-35. Et Ésaïe, parlant de Christ, a dit qu'il sera un sanctuaire, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Et Pierre est si loin de se considérer lui-même comme le rocher sur lequel Christ bâtit son Église, qu'il dit à l'Église de Christ, dans son épître générale, que Christ était une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour ceux qui s'achoppent à la parole, étant désobéissants. 1 Pé 2:8. Car l'apôtre a dit aux Romains, l'Église de Christ, en parlant de Christ, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et quiconque croit en lui ne sera point confus, c'était Christ, et non Pierre. » Romains 9:33. Et l'apôtre dit à l'Église de Christ, parlant d'Israël, « Comment ils burent tous le même breuvage spirituel, car ils burent au même rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » 1 Cor 10:4. Ainsi il n'a pas dit que le rocher était Pierre, ni aucun homme extérieur. Et l'homme sage bâtit sa maison sur le rocher, Christ Jésus, sinon, la pluie et les inondations la renverseront, comme en Matthieu 7:25. Et l'apôtre dit à l'Église de Christ, « Nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. » 1 Cor 3:11. Et encore il a dit aux Éphésiens, « Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, ainsi le rocher et le fondement de Dieu demeurent fermes, Christ Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, et ainsi pour toujours. » L'ancienneté de notre croix. L'apôtre a dit à l'Église de Christ que « la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » 1 Cor 1:18. Et ceux qui étaient et sont ennemis de la croix de Christ étaient et sont ennemis de la puissance de Dieu. Ainsi toutes vos croix de pierre, de bois, de laiton, d'argent ou d'or, que vous avez inventées et dressées depuis le temps des apôtres, ne sont pas la croix de Christ, la puissance de Dieu. Et l'apôtre a dit, « À Dieu ne plaise que je me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. » Galates 6:14. C'était donc la puissance de Dieu, la croix de Christ, dont l'apôtre se glorifiait par laquelle le monde était crucifié pour lui, et lui pour le monde. Et c'est là notre croix, qui a été dressée il y a plus de 1600 ans. Il est peu probable que ce fût une croix faite de bois, de pierre, de fer, de laiton, d'argent ou d'or, dont l'apôtre ou l'Église de Christ se glorifiait, ou que de telles croix extérieures, temporelles et mondaines que les hommes fabriquent et inventent puissent crucifier les gens au monde. Ce qui crucifie les gens au monde, et le monde à eux, c'est la croix de Christ, la puissance de Dieu, devant laquelle tous doivent se prosterner. Ils sont insensés et dans les ténèbres, ceux qui pensent qu'une croix de pierre, de bois, de fer, d'argent ou d'or, faite par la main de l'homme, est la croix de Christ, la puissance de Dieu, et se courber devant de telles choses mondaines et temporelles, et les appeler la croix de Christ, est contraire aux Écritures que les apôtres enseignaient à l'Église de Christ en leur temps. C'est cette puissance de Dieu, qui crucifie le monde à une personne et cette personne au monde qui était la croix de l'Église de Christ en leur temps, et qui est la croix de l'Église de Christ maintenant, mais la première Église de Christ ne pouvait pas, et nous ne pouvons pas nous incliner devant quelque croix temporelle, extérieure et mondaine que les hommes ont faite de leurs mains, puis nous prosterner devant elle, car ceux qui adorent les œuvres de leurs propres mains sont ennemis de la croix de Christ, la puissance de Dieu. Il y en avait au temps des apôtres qui s'enflaient vainement dans leur esprit charnel, ne tenant pas ferme Christ comme la tête, et il en est ainsi maintenant, de sorte que de cette tête, tout le corps de Christ, par les jointures et les ligaments, reçoit la nourriture qui lui est dispensée, et par lui est assemblée, et croît d'une croissance qui vient de Dieu, comme en Col 2:18-19. Maintenant Christ éclaire tout homme qui vient au monde par la lumière, la vie qui est en lui, la tête par qui le monde a été fait afin que par la lumière il puisse voir Christ et lui la tête du corps, son Église, par qui tous les enfants de la lumière et du jour peuvent être unis en lui et recevoir par lui leur croissance de Dieu et ainsi avoir communion avec le Père et le Fils et les uns avec les autres. Astérisque la communion est dans l'esprit, avec le Père et le, ainsi que la communion dans l'esprit avec les autres croyants, proches ou éloignés. Fox parlait de se connaître les uns les autres dans l'esprit, ce qui était bien au-delà d'une connaissance faite dans la chair par la parole et le geste. Or, tous ceux qui s'ingèrent dans des choses qu'ils n'ont pas vues, enflés d'un esprit charnel, et qui ne tiennent pas Christ pour leur tête, mais ont établi d'autres têtes, se sont scindés en sectes, schismes et divisions les uns contre les autres. Cela se voit clairement maintenant, comme au temps des apôtres. Orchefox le 2 mois, 1688, le discours ou déclaration du sultan Mahomet, le grand turc qu'il envoya à l'empereur d'Allemagne, daté du 25 mars 1683 depuis Andrinople, juste après que le baron Safonara, ambassadeur de l'empereur, eut sa dernière audience auprès du prince vizir, au cours de laquelle le dit ambassadeur ne put se conformer aux exigences extravagantes du turc, ce qui amena le dit grand seigneur à transmettre la même chose à sa majesté impériale, fidèle. Mahomet le 4e fils d'empereur, et du fameux et renommé Dieu empereur des Turcs, roi de Grèce, de Macédoine, de Moldavie, de Samarie et d'Égar, roi de la Grande et de la Petite Égypte, roi de tous les habitants de la terre, et prince du paradis terrestre, prince reconnu, fils obéissant de Mahomet, conservateur des villes d'Hongrie, possesseur du sépulcre de votre Dieu, seigneur de tous les empereurs du monde, du lever du soleil à son coucher, roi des rois, seigneur de l'arbre de vie, conquérant du Glémalon. Nous vous ordonnons de saluer l'empereur Léopold, au cas où il le désirerait, Et vous êtes un ami de Notre Majesté, dont nous avons étendu fort loin le pouvoir et la volonté. Depuis quelque temps, vous avez agi à notre préjudice et violé notre amitié, bien que nous ne vous ayons offensé ni par la guerre ni autrement. Pourtant, vous avez pris conseil en secret avec d'autres rois et vos conseils sur la manière de secouer votre joug, en quoi vous avez procédé fort imprudemment, et par là vous avez exposé votre peuple à la crainte et au danger, qui n'a maintenant rien à attendre que la mort que vous avez attirée sur vous-même, car je déclare que je me rendrai votre maître et vous poursuivrai de l'est à l'ouest. Dans le cours de tout cela, vous trouverez ma puissance exercée à votre extrême préjudice et vous ressentirez les effets redoutables de ma colère. Et puisque vous avez mis votre espérance dans la force de certaines villes et châteaux, j'ai donné ordre de les renverser et de fouler aux pieds de mes chevaux tout ce qui vous est agréable, ne laissant plus ensuite aucune place pour faire amitié avec moi, ni ne souffrant qu'il vous reste aucune place fortifiée où mettre votre confiance, car j'ai résolu de vous détruire sur le champ, vous et votre peuple, et de vous dépouiller de l'Empire allemand selon ma volonté, laissant dans l'Empire un souvenir de mon épée redoutable, afin qu'il paraisse publiquement que j'y étais. Vous ferez bien d'abandonner votre religion, autrement je donnerai ordre de vous consumer par le feu. Cela suffit pour vous faire comprendre ma volonté, si vous êtes assez sage pour la connaître. Une réponse au discours ou à la déclaration du Grand Turc, et d'autres, par George Fox trouvée sur une page séparée, George Fox Sélection Muslime, HTML concernant les sacrifices et les offrandes quotidiens, par G. F. Les prêtres sous la loi offraient quotidiennement des sacrifices, mais Christ, notre souverain sacrificateur, n'a pas besoin, chaque jour, comme ses prêtres, d'offrir un sacrifice pour son propre péché, puis pour celui du peuple. Hébreux 7:16-28 Car Christ s'est offert lui-même une fois pour toutes, lui qui est établi non selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable, lui qui est assis à la droite de Dieu et ne peut donc plus être offert comme offrande et sacrifice, lui qui a aboli le sacerdoce changeant, avec toutes ses offrandes et tous ses sacrifices par le sacrifice et l'offrande de lui-même, une fois pour toutes. Et ainsi il est dit, « Je suis venu pour faire la volonté de Dieu, pour ôter le premier, à savoir le sacerdoce et les offrandes de l'Alliance, et établir le second, par cette volonté par laquelle nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Jésus. » Remarquez, le corps de Christ est offert une fois pour toutes, Hébreux 10:9. Et ainsi Christ est entré dans le ciel même, non pour s'offrir souvent, comme le faisaient les souverains sacrificateurs, car alors Christ aurait dû souvent souffrir, mais il a ôté le péché par le sacrifice de lui-même, une fois pour toutes. Ainsi Christ a été offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, et à ceux qui l'attendent, il apparaîtra une seconde fois sans péché pour le salut, comme en Hébreux 9:25-26-28. Ainsi, vous pouvez voir ici que Christ n'est pas souvent offert comme sacrifice ou offrande pour les péchés du monde entier, autrement, il aurait souvent souffert. Mais après que Christ eut offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours, il s'est assis à la droite de Dieu. Et par cette unique offrande, Christ a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ainsi, vous pouvez voir ici que c'est une seule offrande et un seul sacrifice, une fois pour toutes, non pas offrir Christ de nombreuses fois ni souvent. Et dans Hébreux 10:12-14, les prêtres sous la loi offraient des offrandes, mais Christ s'est offert lui-même, lui qui avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Ainsi ce ne sont pas des prêtres qui ont offert Christ, car après que Christ eut offert un seul sacrifice et une seule offrande pour les péchés, par laquelle offrande et sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, il s'est assis à la droite de Dieu, lui qui vit toujours pour intercéder pour son peuple. Et Christ a dit, « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté, par cette volonté nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, comme auparavant. » Et ainsi il n'a pas souvent offert son corps comme sacrifice pour tous, car alors il aurait dû souvent souffrir, comme auparavant, mais maintenant une fois remarqué, une fois il est apparu pour ôter le péché par le sacrifice de lui-même, et non en s'offrant ou en se sacrifiant souvent, car comme il est dit Christ ayant quelque chose à offrir, c'est-à-dire qu'il s'est offert lui-même, son corps une fois pour tous les péchés, et a mis fin au sacrifice quotidien mettant un terme au sacrifice quotidien, comme en Dan 9:27. Où vous pouvez voir qu'il fit cesser les sacrifices quotidiens et les oblations, lorsqu'il fut retranché, non pour lui-même, mais pour le peuple, qui par l'unique offrande et le sacrifice de lui-même, mit fin aux offrandes et sacrifices quotidiens. Et par conséquent, tous doivent regarder à lui, l'unique offrande et le sacrifice une fois pour toutes. David a dit, « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, et ce sont les sacrifices que Dieu ne méprisera pas, comme en Psaume 51:17. » Et David a dit, « Que ma prière soit devant toi comme l'encens, remarqué comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme le sacrifice du soir, remarqué comme le sacrifice du soir. » Maintenant, vous pouvez voir ici que David voyait au-delà des offrandes et sacrifices extérieurs, car il désire que sa prière soit comme l'encens, et l'élévation de ses mains comme le sacrifice du soir. Psaume 141:2. Et Salomon a dit, « Le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel, mais les prières des cœurs droits lui sont agréables. Pro 15:8. Ici vous pouvez voir, vous qui êtes méchants, que vos prières et vos sacrifices ne sont pas acceptés. Faire la justice et le jugement est plus agréable à l'Éternel que les sacrifices extérieurs. Pro 21:3. Ainsi, vous pouvez voir ici qu'il ne s'agit pas seulement d'offrir des sacrifices avec une profusion de paroles, ni de choses extérieures, mais de pratiquer le jugement et la justice. Et Christ dit aux Juifs extérieurs, qui étaient dans leurs offrandes et sacrifices extérieurs, et leurs longues prières, Christ leur dit, « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », et il leur dit d'aller apprendre ce que cela signifie. Car le Seigneur a dit, « Je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice, et à la connaissance de Dieu plus qu'au holocauste. » Matthieu 9:13 au 6:6. Ainsi, vous pouvez voir ici que la miséricorde et la connaissance de Dieu vont au-delà des offrandes et sacrifices extérieurs. Car comme l'apôtre l'a dit, Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous à Dieu comme une offrande et un sacrifice, un parfum de bonne odeur. F5 2. Ainsi, vous pouvez voir que Christ s'est donné lui-même en offrande et en sacrifice pour nous à Dieu, et les saints maintenant n'offrent pas Christ, qui s'est déjà offert lui-même, remarquez, lui-même, mais ils doivent présenter leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est leur service raisonnable. C'est ce que l'apôtre a écrit à l'Église de Christ, aux Romains, et c'est pareillement le devoir de tous les chrétiens. Et l'apôtre dit à l'Église de Christ, aux Hébreux, par lui à savoir Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, confessant son nom, et n'oubliez pas de faire le bien et de partager, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Car même Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. 1 Cor 5:7. Et Pierre, dans son épître générale, dit à l'Église de Christ qu'ils étaient édifiés, comme une maison spirituelle, un saint sacerdoce royal, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ, remarqué, par Jésus-Christ à Dieu. Or, tous les vrais chrétiens sont un sacerdoce royal et une maison spirituelle, et par l'Esprit, ils doivent offrir des sacrifices spirituels. Ce sont ceux qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance. Ainsi, l'apôtre n'a pas dit qu'il devait offrir Jésus-Christ, mais offrir un sacrifice à Dieu par Jésus-Christ, car Christ s'était offert lui-même une fois pour toutes. Et vous pouvez voir comment les Juifs, lorsqu'ils abandonnèrent le Seigneur, s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent les sacrifices des morts, ce que le Seigneur avait interdit, et le provoquèrent à colère, de sorte que sa plaie éclata parmi eux, comme en psaume 106:28-29. George Fox, livre de Doctrine 6, suite retour à l'index de Doctrine. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.